Cette semaine à la vie en BD, Xavier Cadieux et l'adaptation en bande dessinée des pires moments de l'histoire. À toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Une émission un peu en deux temps, puisque ben, si vous êtes présent, actif sur les réseaux ou peut-être au fil de l'actualité, eh ben, vous aurez vu passer les finalistes 2024 des prix PDIS Causa, les plus vieux prix dédiés à la bande dessinée francophone en Amérique du Nord qui sont remis depuis 1988. Eh bien, les finalistes 2024 ont été dévoilés il y a tout quelques jours de ça. Alors, on avait envie ben, de prendre un petit temps pour passer en revue cette liste au-delà de l'énumération, peut-être une liste commentée, si on peut dire. Donc, ce sera en fin d'émission de ce côté. Et sinon, ben, dans quelques instants, on va aller regarder une adaptation BD d'une balado ou de chronique, en fait, à vertu historique. Donc, Charles Beauchesne, qui est bien connu, en fait, dans la sphère de la balado-diffusion, entre autres, avec donc ses pires moments de l'histoire. Un beau travail de vulgarisation historique. Et cet univers-là a vu une extension vers la bande dessinée arrivée l'an dernier. C'est du côté de Front Froid. Et ben, c'est à Xavier Cadieux qu'a été donnée la responsabilité justement d'aller faire la transition, l'adaptation de la parole et de la radio vers la bande dessinée et la lecture. Alors, on avait envie de prendre un temps avec lui pour discuter de cet exercice-là, de comment ça s'est passé, comment ça a fonctionné et comment, au final, eh bien, on fait pour transposer, dans le fond, un univers d'un médium à un autre. Alors, ça va être le cœur de notre émission cette semaine, cette rencontre avec Xavier Cadieux. Alors, voilà. Pour le menu cette semaine, ici à La Vie en BD. On va maintenant du côté de la bande dessinée Les pires moments de l'histoire. Alors, une bande dessinée qui a été travaillée côté scénario. Une bande dessinée qui a été travaillée côté scénario par Charles Beauchesne, François de Grandpé et Audrey Rousseau et qui a été dessinée, mise en scène par Xavier Cadieux, qui est avec nous. Xavier, bonjour.
Allô, ça va vraiment?
Ça va très bien. Et ben, j'imagine que la première question, en fait, c'est de voir, bon, les pires moments de l'histoire, on le connaît évidemment pour la balado. Il y a eu des chroniques également, La soirée est encore jeune, sur Radio-Canada. Et donc, il y a maintenant une adaptation BD qui en a été faite. Comment tu t'es retrouvé un peu sur ce projet-là? Est-ce que c'est ton éditeur qui t'a approché? Est-ce que c'est un peu par hasard?
Oui, c'est ça. Ça m'a l'air d'être. L'idée a germé dans la tête de Gauthier Langevin. Je pense qu'il était fan du podcast, comme tout le monde, là, je pense. Ça prend 5 secondes avant de réaliser là, que, ah oui, OK. Quand j'écoute ça, les images me viennent en tête. Je pense que Gauthier aussi, très vite, il se dit « Oh, ça ferait une bonne bande dessinée ou ça se prête très bien au médium visuel. » Puis, je pense qu'il les a approchés avec cette idée-là. Puis, très vite, mon nom est sorti comme étant quelqu'un qui serait peut-être non seulement partant, mais je pense que mon univers ça prête bien au jeu là, des pires moments. Puis on a fait un petit test la grande inondation de mélasse de Boston. C'est le premier petit chapitre qu'on a essayé ensemble, voir si la magie opérait. Puis encore là, très vite, on s'est rendu compte que ça allait être ça.
Parce que j'ai l'impression que quand on crée des couples comme ça, un peu à l'improviste, dans le fond, on parle évidemment de la matière première, le podcast, l'univers de Beauchesne, dans le fond, c'est très pince sans rire, il y a beaucoup d'humour, il y a des grands délires à l'intérieur de ça. Et quand on regarde un peu ton travail, on voit effectivement une certaine parenté. J'ai l'impression que on a soit le choix quand on adapte ou quand on amène vers un autre médium, soit d'aller à l'antithèse, de dire bon, on y va avec une BD réaliste, historique, ou d'aller all-in au bout du compte dans le style, dans l'humour. Visiblement, Gauthier a choisi d'aller all-in un peu là-dedans. Et j'imagine qu'avec le test et avec les éléments, ben, c'est de voir aussi, puis au fil du développement de l'album, de voir ben, OK, est-ce qu'on est en train de s'encourager respectivement à aller peut-être un peu trop loin dans l'humour qu'on partage et qu'on arrive un peu aussi à se garder en bride à travers tout ça, tout en faisant que les pires moments de l'histoire, oui, c'est l'univers de Beauchesne puis de son équipe, mais c'est aussi l'univers de Xavier Cadieux, puis qu'on réussit quand même à reconnaître l'humour des deux, qui a quand même, pour lequel il y a quand même certaines similitudes, là, clairement.
Absolument, absolument. Dans les discussions qu'on avait, on se rendait compte que les référents étaient assez, t'sais, on partageait beaucoup d'affaires, là. La rubrique à braque est vraiment pas loin. François Pérusse, évidemment, t'sais, quand on écoute les pires moments de l'histoire, François Pérusse est pas loin. Puis ben, moi aussi, c'est tout proche, là, dans mon ADN, ces affaires-là. Puis, ben, t'sais, oui, je me pince encore là, quand je pense à ce projet-là. Il y a tellement d'avenues différentes. Il y a tellement de manières différentes que ça aurait pu être adapté, ce podcast-là, que tu sais, des fois, je suis triste. Là, je me dis, ah, ça aurait été cool, quelqu'un, comme tu dis, là, vraiment réaliste, là, tu sais, un technicien du dessin historique, là, ça aurait été vraiment malade. Je suis juste content qu'il m'ait fait confiance avec ça. Puis justement, tu sais, j'ai pas de retenue quand je dessine mes trucs. Parlez-en à Alexandre Fontaine-Rousseau, il va vous dire qu'il écrit ce qu'il écrit, puis après ça, il me le donne, puis les jokes que je vais rajouter, quand même, qu'il me dirait de pas le faire, je pense que je serais pas capable.
Oui,
J'aurais
puis en
pas
même temps,
ces retenues.
ça permet d'aller dans le temps. Je veux dire, on dirait que ça fonctionne parce que justement, tu sais, le délire est là, l'ambiance est là sur les pages, puis qu'au bout du compte, la frénésie qu'on a quand on les écoute en ondes, puis on la retrouve, cette frénésie-là aussi, dans ce qu'on retrouve à l'écrit puis en dessin. Et c'est clairement parce qu'il y a une adéquation entre le ton du texte puis le ton du dessin aussi, puis la façon dont tu choisis de le mettre en scène puis de l'accrocher.
Oui, absolument, absolument.
Ça, c'est les questions compliments.
Ah, ben, merci. Mais c'est que la manière aussi que je l'ai travaillé, ce qui est particulier avec cette batch de capsules-là, c'est que c'était des capsules qu'ils avaient fait pour la soirée encore jeune. Donc, le matériel, lui, était là, puis il est fabriqué pour puncher à l'audio. Donc, il me donne ça, mais il est un peu autosuffisant, le texte. Il est excellent comme ça marche, là. Il a déjà fait la job, là, avec 5 étoiles, là. Alors, j'ai plein d'avenues pour l'adapter, là. Est-ce que je fais juste tout ce qu'il me mentionne dans le texte, je le montre, puis au risque de devenir un peu Blake et Mortimer, là, tu sais, avec beaucoup de redites dans le texte et dans le dessin. Ou est-ce que je vais plus loin, tu sais, est-ce que je rajoute justement des gags, est-ce que dans le texte le petit gag, le petit demi-gag avant le vrai punchline, est-ce que c'est ça plutôt que je vais illustrer? Puis ben justement, tu sais, en partant avec la balle un peu comme ça, ben je me ramasse avec faire un peu des décisions là.
Puis j'ai l'impression même dans la rythmique aussi, parce que tu le dis, dans le fond, c'est d'abord un texte qui a été pensé pour l'oral. Donc, j'ai presque, en lisant la BD, des fois, j'avais presque l'impression qu'il y avait un découpage rythmique dans les cases, parce que il y a vraiment, tu sais, autant il y a des illustrations pleines pages qui viennent terminer, qui viennent puncher, ou dans lesquelles il y a plein de répliques, autant tu as des séquences avec des cases, voire même avec des mini-cases, là, je vois pratiquement de la grosseur d'un doigt, là, donc Il semble avoir un jeu rythmique aussi dans juste l'architecture de tes planches.
Ben oui, parce que c'est la voix et le débit de Charles Beauchesne est tellement particulier, fait tellement, il est tellement riche que ce serait criminel d'arriver dans la bande dessinée et perdre ça. T'sais. Donc, ben oui, quand il fait des intonations de dessin animé, ben, j'essaye le plus possible de convoyer ça avec les découpages. Le texte, lui, est fait. Eux, à l'équipe au complet, ils ont une manière de formuler les choses qui est inimitable. Donc ça, le texte est super solide. Donc, je me disais, si je suis capable de rythmer un peu la manière que le lecteur va lire certains trucs, ça va décoller.
Ça me fait penser, ou j'ai presque l'impression, parce qu'on dit, par exemple, le ton, le rythme, il y a des éléments comme ça qui font que la balado marche, que les gens qui écoutent la balado vont s'attendre à voir ou vont chercher peut-être un peu dans l'esprit, mais en même temps, si tu fais une adaptation, mais de toute façon, toi aussi, faut, j'imagine, que tu ailles, que tu écoutes la balado, mais pas juste d'un point de vue fun, gars qui trippe à écouter parce que c'est rigolo, puis intéressant, mais aussi d'un point de vue analytique pour dire, bon, OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça?
Ah,
Et
c'est
après ça,
ça.
comment moi je peux
Ouais.
prendre cet élément-là puis l'amener dans ma planche?
C'est ça, tu sais, je suis pas un humoriste ou rien, tu sais, mais je me suis assis, j'ai écouté des trucs, et je me suis dit, OK, ben, faut que je comprenne pourquoi c'est si drôle, tu sais, puis les raisons pour lesquelles c'est si drôle, faut que je m'arrange pour que ce soit là dans les pages un peu. Mais c'est du beau matériel à adapter, là, c'est vraiment.
Puis, à part l'effet de rythme qu'on a mentionné, le ton lui-même, est-ce que c'est quoi un peu les autres éléments que tu avais identifiés d'entrée de jeu comme étant, bon, OK, ça va être mes autres contraintes, au bout du compte, pour après ça orienter ce que je vais en faire de ce texte-là?
Les contextes historiques, tu sais, quand je fais la pitoune de la poutine ou n'importe quoi d'autre, tout est fait en pâte à modeler, puis tu sais, c'est très lousse, c'est très tout marche, les choses ont l'air de ce qu'ils ont l'air, mais tu sais, c'est pas, je suis pas un technicien, encore une fois, mais là j'arrive dans les pires moments de l'histoire, puis je me dis, ouais, mais si l'archiduc s'est fait tuer dans telle voiture, ben, je pense que je vais vouloir que la voiture ressemble à la vraie voiture. Puis là, ben, tout à coup, je me suis ramassé avec, tu sais, 80 onglets, Google Images de la voiture de l'archiduc Franz Ferdinand, c'était quoi? Puis là, j'essaye de dessiner ça, puis je me suis surpris à bien aimer ça. Et ultimement, je me dis, ben, ça a servi quand même à grounder un peu, là, ce qui aurait pu être les informations qu'ils donnent dans leur texte ou dans les capsules, c'est très bon, c'est super bien recherché. C'est une difficulté ça, pour moi là, de me dire, comme, OK, ben là, faut que ce travail-là, que je laisse ça aussi, c'est une des contraintes que je me suis mis, c'est d'amener ce travail de recherche-là au niveau du texte, mais l'amener aussi dans le graphisme, tu vois, m'assurer que les gars qui sont traités ont l'air la bonne affaire. Si j'ai deux chapitres sur le Moyen-Âge, telle période, tel endroit, puis telle autre période, tel autre endroit, ben, je vais pas juste dessiner tout le monde en Donjons et Dragons. Je vais essayer un peu, tu sais, sans virer fou, là, mais un peu de voir comme c'est quoi la différence entre un paysan de Belgique versus un marchand italien. Du Moyen-Âge, tu sais.
Oui, puis ça devient, est-ce que, ben en fait, ça devient une façon d'orienter aussi le cadre dans mesure où là, subitement, OK, tu as des contraintes au dessin. Je me rappelle en fait des fois, quand on jasait des 500 premiers casus ou même de la pitoune, une part d'improvisation puis de délire aussi où à un moment donné, tu te lances puis tu te laisses emporter aussi par ce que tu proposes dans l'idéation de tout ça puis dans l'exécution. Est-ce que ça venait un peu freiner ça? Au début, puis où cet aspect-là, où en disant, OK, il faut quand même que ça soit ressemblant, il faut quand même que, faut pas que je diminue la valeur historique du délire historique qu'eux me proposent, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as réussi à vraiment l'intégrer, puis au contraire, que ça t'a amené ailleurs un peu côté approche de travail, ou...
C'est sûr que ça m'a ralenti un peu. Faire le découpage, faire les crayonnés, c'est devenu l'étape compliquée, là, alors que pas vraiment sûr qui est ma difficulté généralement. Mais spoiler alert, ça l'est devenu. Là, je suis en train de faire un livre, une suite à Latrine Latine, puis mes crayonnés sont compliqués, puis c'est rendu ça, là, mon étape dure. Là. Parce que ben, j'ai aimé ce que ça a fait sur les pires moments de l'histoire. J'ai aimé travailler les décors, travailler les objets, faire un peu de recherche, puis m'organiser. Je divague un peu, là, je me souviens plus de ta question, là, mais c'est un peu ça, c'est que oui, ça m'a amené à faire des pages que, oh, au début, c'était un peu plus long, mais ah ouais, mais les pages sont vraiment belles, fait que, ben, on va continuer, ça m'a encouragé à faire de la recherche, à aller googler de quoi ça a l'air, l'Égypte de Toutankhamon.
Oui, parce que te l'ont pas donné facile non plus. En fait, le livre lui-même, Les pires moments de l'histoire, c'est 10 anecdotes, dans le fond, 10 anecdotes historiques, mais où tu passes, tu en parlais tantôt de la grande inondation de Mlas de Boston, l'assassinat du duc d'Autriche Ferdinand, l'invasion de l'imprimerie, le chalet d'Hitler, une expédition au pôle Nord, un top 3 des animaux qui ont changé l'humanité, la malédiction de Toutankhamon, etc. Tu sautes beaucoup de périodes, de contextes, de l'Antarctique. À la ville, à des époques. Donc, ça, c'est côté recherche, tu quand même, côté visuel, tu étais en constante exploration là-dedans. Là. Tu peux pas trouver tes assises facilement.
À chaque début de chapitre, on est complètement ailleurs. Okay, on recommence tout. Ça va être quoi le déguisement de Charles? Puis, OK, on est à telle place. Mais c'est super le fun. Je pense que ça me convient bien encore là. Tu sais, on parle de synchronicité là, un peu avec ce projet-là. Ça me convient bien. Tu sais, il m'aurait demandé de faire 200 pages sur un de ces sujets-là. Je pense qu'à la fin, j'aurais été un petit peu plus grincheux, peut-être. Mais là, à toutes les 17 pages, à toutes les 12 pages, ça j'ai un nouveau terrain de jeu. C'est super le fun.
Oui, puis on parlait d'une adaptation au niveau de la structure de la balado elle-même, mais je regardais un peu le récit, puis c'est un peu comme pour la série de balado, mais au bout du compte, on passe d'anecdote en anecdote, de lieu en lieu, de contexte en contexte, et ben, c'est Beauchesne, c'est sa voix, c'est son expression, qui devient un peu le fil rouge de l'auditeur. Donc, à l'intérieur de ton récit, j'imagine que nécessairement, ben, c'est Beauchesne encore là qui devient le fil rouge, qui devient l'élément qui va lier et assurer une cohérence à l'ensemble de l'album, donc dans ce qu'il dit et dans ce qu'il est aussi. Donc j'imagine que rapidement, tu as dû aussi définir c'est qui le personnage de BD Charles Beauchesne.
Oui. Dès les premières discussions qu'on a eues, là, je pense que chez Concroix, puis chez les pires moments d'histoire, je pense que tout le monde avait lu, savait ce qu'était la pitoune et la poutine. Puis le personnage du castor, je pense que ça c'était ça va de soi. Là. Tu te dis, ah oui, OK, ben ça, si on faisait les pires moments d'histoire, ben, ça pourrait être un peu le. L'archétype de ce qu'un Charles Beauchesne pourrait faire dans une bande dessinée là, avec le matériel qu'il est en train de raconter. Puis, ben moi, c'est une sorte de narrateur que j'adore. Hein, tu sais, Alex, c'est vocal là-dessus. Il s'attendait pas à ce que le castor se mette à discuter, là, que le narrateur soit un castor qui est là, qui commence à jaser. Quand je commence à adapter les pires moments, ben, ça va de soi aussi, là. Ça me prend que, faut justifier d'avoir Charles Beauchesne qui te raconte l'histoire. S'il faut toujours revenir à un salon victorien avec Charles, qui boit un verre de vin, ça va devenir lassant, peut-être. Peut-être que je l'ai dit, puis je vois, peut-être que ça pourrait être intéressant.
Mais ça
Peut-être
viendrait
un peu.
redondant à longue, par
Ouais,
exemple,
c'est
je
ça.
pense.
Mais sur 13 chapitres, je suis pas sûr que c'était la bonne voie. Mais après ça, tu me dis, OK, oui, cette sorte de narrateur-là, un narrateur intra-diégétique là, qui va se faire attraper par un commissaire de police pour tuer un cheval, là, tu sais, ce genre de choses-là que je trouve drôles, puis dynamiques, puis ça me permet d'insérer des petites. Ça va être quoi l'histoire de Charles dans celui-là? Oui, il est en train de raconter cette anecdote-là, mais lui, par quoi il va passer jusqu'à la fin? Ça, c'était tout pour moi. J'aime
Oui.
beaucoup ça.
Oui, c'est
Puis
intéressant, en
après
fait,
ça.
deux niveaux un peu, dans le fond, d'avoir le niveau de ce qui est raconté, puis comment il va le raconter aussi, dans le fond.
Exactement. Puis, ça, j'aime ça, des défis comme ça. Puis après ça, ben, pour développer un peu, ça va être quoi sa personnalité, quelle sorte de caricature je fais. Encore là, très vite, je me suis dit, parce que c'est pas toujours évident quand j'écoute le podcast. On comprend sa personnalité, on comprend c'est qui, puis c'est lui, tu sais. On jase avec, on se rend compte. Ah oui, OK, Charles Beauchesne, c'est Charles Beauchesne. C'est pas un rôle si élaboré que ça. Là, tu le rends compte, tu jases avec, tu dis, ah oui, c'est lui, là, je le connais. Je l'ai écouté dans son podcast. Mais des fois, tu te demandes comme personnage, il te raconte tout ça, puis il est où le niveau? Est-ce qu'il se délecte de ces anecdotes terribles-là? Où est-ce qu'il est consterné? Puis, je me suis dit, ah oui, mais ça pourrait être le Crypt Keeper, tu sais, c'est ce personnage-là là, de DC Comics, là, tu sais, le vieux fossoyeur là, qui vient et va te raconter l'anecdote terrible. Avec les dents pointues, OK, écoutez, les enfants.
Oui, qui a conscience de l'effet que son anecdote va avoir sur la personne qui écoute ou qui lit, dans le fond.
C'est ça, fait que une attitude d'animateur de double feature de minuit. Tout s'est imbriqué là, très vite. Là. Dès l'innovation de Mélas, c'était fait.
Oui, en fait, c'est de se dire, bon, OK, mon narrateur devient un artiste, dépasse un peu le simple narrateur, devient un artiste visuel. Il devient une façon de s'assurer qu'on n'est pas juste dans l'observation ou dans une démonstration, d'avoir quelque chose qui est très actif. Puis j'imagine aussi dans un contexte où on est quand même à haut niveau dans l'anecdote, je veux dire, Franz Ferdinand, ça pourrait être une BD de 180 pages, tout ce qui s'est passé.
Ouais.
Mais on va synthétiser, puis ça permet de le raccrocher à l'imaginaire de ce qu'il raconte, ou au cas où on a une séquence un peu, style film d'assassin, justement, avec des figures, puis OK, on se lance un peu là-dedans, puis on embarque dans cet univers-là parce que la narration devient un artifice pour orienter la mise en scène par la suite.
Ben oui.
Puis est-ce que quand même, dans le fond, ce que tu dis, bon, avec Boston, la mélasse, ça s'est imposé de façon assez claire. Est-ce que toutes les histoires ont été assez évidentes, dans le fond, en termes de plongée, en termes de lancée, ou les pièces du casse-tête sont arrivées un peu assez efficacement, ou est-ce que il y en a quand même quelques-unes à travers ça qui ont été peut-être un peu plus ardues pour trouver la bonne prise, la bonne poigne, pour réussir à l'amener, puis à éviter aussi que ça soit, parce que c'est un élément dans le livre qui est quand même remarquable, où on sent pas, c'est pas redondant comme procédé non plus. On a une volonté de faire quand même des choses différentes, de faire évoluer le procédé un peu. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont été plus difficiles côté poigne?
Pas que je me souviens. Ce que je me souviens, c'est qu'il les écrivait, ben, qu'il les écrivait, c'était déjà écrit, mais il les retravaillait un peu pour enlever les références à lorsqu'on est encore jeune. Puis, les gars qui vieillissent mal, ou, tu sais, les références dont on ne se souvient plus. Puis, ben, aussi les gags trop visuels, tu sais, ou trop audio, je sais pas, tu sais, mais me le mettre en place. Puis je les recevais quand même un à la fois. Je le faisais. Peut-être que j'en avais deux, trois là, sur la planche, là, mais je le faisais un à la fois. Je me souviens pas qu'il y en ait un là, qui a bugué tant que ça. Je pense que je levais la barre un peu à chaque fois. Je me donnais un petit peu plus à chaque fois. Les gangsters, il y a le massacre de la Saint-Valentin, là, la fois qu'Al Capone massacré le clan en face. Chicago, les années 30, là, okay, on n'est pas dans l'Empire romain, là, c'est, okay, ça, c'est, faut que ça file un peu, là, puis là, on est tous dans les voitures, les machins, les guns, puis ça m'a challengé un peu plus. Mais non, non, ça a été vraiment un processus, très smooth, très, très agréable.
Dans le fond, tu savais un peu ce qui s'en venait, tu savais les disques, puis après ça, ils te fournissaient les scénarios. Donc, comme ça arrivait aussi de façon progressive, ben, j'imagine qu'il y a moins de questions à savoir par laquelle je commence, par laquelle je fais en deuxième. C'est comme, ben, c'est ceux-là qui sont là, on se lance, on trouve. Puis après ça, ben, dans le fond, on prend le pas de recul pour essayer de les ordonnancer aussi dans le récit, parce que évidemment, ils ne se retrouvent pas dans l'ordre où ils ont été créés non plus. Donc, il faut
Ça,
créer.
ils sont pas dans l'ordre où ils ont été faits. On les a remaniés à la fin pour que ça fasse une lecture sans accroc, là, mais ça, c'est plus Gauthier puis l'équipe qui ont l'œil, là, pour faire un enchaînement qui a de l'allure.
Puis on parlait de mise en scène, j'imagine aussi que il y a des éléments qui arrivent, tu dis OK, c'est comme incontournable, j'ai envie d'avoir de la place, je pense, par exemple, tu sais, parce que tu te permets, tu sais, autant, puis je le mentionnais tantôt, autant il y a des séquences qui sont très, très rapides, des mini-cases des fois même, autant des fois tu te permets des pleines pages, voire des pleines doubles pages aussi. Exemple avec l'inondation de Mlaz, donc quand on arrive, que c'est inondé, je veux dire, c'est tellement ridicule par défaut, puis on comprend pourquoi il l'a pris, donc de se dire, ben OK, on va pousser, puis on va. Toi, t'as envie aussi de te prendre de la place pour amplifier ce ridicule-là aussi.
Ben oui. T'sais, pas vouloir faire un livre de 300 pages, mais vouloir quand même faire de la place pour ces beaux moments-là visuels, quand ils rentrent dans la tombe de Toutankhamon. Je sais que je veux un gros dessin. 2 pages plus tard, je sais que j'ai une méchante bonne blague de dieux égyptiens qui se prennent pour Jean-Marc Parent. Ça aussi, je sais que je vais vouloir le dessiner plus que dans un petit encart. Et des fois, c'est difficile de se dire, OK, mais entre ces deux immenses blagues-là que je veux dessiner, j'ai beaucoup d'informations à croiser. Des fois, le challenge, c'était de... Est-ce que je vais faire une case avec juste? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'on va me la pardonner, cette case-là? Si ça fait que je peux faire un meilleur gag juste après. Mais ça, c'est le genre de calcul que... Ouais, tout en camion, je pense que ça en est un. Vous regarderez, là, vous irez voir la joke de Jean-Marc Parent. Vous allez voir qu'un peu avant, quelques cases avec juste du texte.
Oui, parce que dans le fond, sinon, si tu étires un peu trop, ben là, tu ralentis ta mise en scène. Donc, on revient un peu à la nécessité du scénario-image, puis du travail de découpage, parce que ce type de question-là, tu sais, on pourrait penser, puis là, je t'écoute, puis je me dis, oh, au pire, on rajoute une planche pour étirer un peu pour se rendre là, mais là, tu affaiblis le reste, seulement tu étires entre tes punches, tu perds ton rythme, fait que c'est. Ça reste, puis on en jase, je pense, souvent quand on jase d'humour ensemble, mais tu sais, c'est une ligne mince entre un gag raté ou une descente, ou quelque chose qui est solide, qui est réussi, qui marche bien. Là.
Ben oui. Puis, tu sais, faut pas sous-estimer aussi là, la valeur nutritive. Là, tu sais, avec les pires moments, ce qui est magnifique, c'est que oui, ton petit encadré avec juste du texte, ben, il est super intéressant. Puis c'est des faits historiques que tu apprends. Là, donc, quand je fais le découpage, puis que je lis même plus ce qui est écrit, je me mets à suivre, je me dis, oh mon Dieu, ce texte-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais après ça, tu le relis, tu fais, oh oui, mais attends, c'est hyper intéressant, cette anecdote, c'est correct, j'ai pas besoin de l'avoir illustré pour me délecter de 2, 3 dates. Mais oui, tu sais, des fois, le fil est mince, là, puis est-ce que ça va être une page de plus? Ah, je suis pas sûr que c'est une page de plus, je suis pas sûr que j'ai 10 affaires à illustrer avec cet encadré-là. Donc, il va, OK, je vais le réduire, je vais le garder là, ça va être du texte, puis je vais essayer de mettre, OK, je vais illustrer ça, puis là, ça va marcher.
Oui, puis
Ouais.
après ça, tu dis, ben OK, le reste, ben, ce sera au pire une tête qui parle, puis ça
Ouais,
va être
ouais.
correct parce que ce bout-là, de toute façon, le dessin viendrait illustrer, mais pas nécessairement apporter. Alors qu'à cet endroit-là, par exemple, là, mon apport va vraiment plus amplifier tel punch, tel effet, tel gag, tel élément de rythme, puis va avoir une utilité qui va être beaucoup plus marquée, beaucoup plus intéressante, dans le fond.
J'ai pas les mots pour décrire les choses que j'ai découvertes dans le rythme, là, mais il y a des sortes de gags où je sais que il y a rien de l'autre côté, tu sais, donc les gens vont arriver là, ça c'est comme un récif, c'est ça, ce joke-là, visuel-là, c'est un récif. On arrive là, paf, OK, toutes les informations qui venaient avec, ils vont toutes arriver en même temps. Puis l'autre côté, on part à neuf. On continue la même histoire, mais l'autre côté, c'est pas grave si c'était un peu désagréable, s'il y a deux, trois affaires qui étaient un peu dolles. L'autre côté de ce joke-là, on part à neuf. Donc, c'est correct. Je sais pas comment
T'en parles la
décrire.
machine, puis de toute façon, tu as un crescendo qui est en train de se recréer après vers le prochain gros punch, dans le fond.
J'ai beaucoup appris sur cette plateforme-là. Je suis bien content d'avoir travaillé des textes de François, Audrey puis Charles. C'est un dream team. Ils sont vraiment c'est une machine à écrire du bon stuff.
Et puis en même temps, j'imagine que eux, dans leur cas, j'ai l'impression que c'était un peu leur première expérience à travailler vers le médium BD dans cette adaptation-là. Soit de ton côté, soit de travailler avec tes propres textes ou de travailler avec des scénaristes qui sont versés dans la bande dessinée. Donc j'imagine que ça change aussi le rôle du dessinateur dans la mesure où c'est toi qui deviens un peu le filtre vers le médium, qui est peut-être moins pensé que dans le travail avec un scénariste qui travaille d'abord pour la bande dessinée.
Ben, tu sais, je pense que tout le monde a été chanceux. Je pense que les autres aussi ont été chanceux en un sens d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre la balle puis d'aller faire ses affaires. Mais la différence entre les premiers chapitres qu'on a fait ensemble, les derniers, c'est que dans les derniers, ils étaient beaucoup plus équipés et outillés pour me proposer des choses. Ils savaient ce que je pouvais faire, qu'est-ce que j'apportais au matériel. Dans les derniers chapitres de l'étape 3, les pires moments là, pour les animaux, puis les fous, puis tous les chapitres qu'on a fait vers la fin, dans le Google Doc qu'on avait, il y avait beaucoup de suggestions là, de choses que je pourrais dessiner ou des commandes carrément. Oh, ça, j'aimerais ça que ça ait tel. Je me souviens pas des trucs. Là. Audrey m'en a fait deux, trois, là, des compliqués, là. Puis, ben, je dis jamais non à rien, là, de toute façon. Je le fais, il n'y a pas de problème.
On voit où ça mène, puis ça marche, dans le fond.
Exactement. Ben, tu vois, je vais le faire marcher.
Puis le résultat devient un peu un objet hybride, ce qui est fascinant, puis tu sais, pour l'avoir fait lire aussi avec à des gens qui trippent la balado, mais qui ne connaissent pas Xavier Cadieux, ils reconnaissent Beauchesne. Puis moi, qui connaissais moins la balado avant de le lire, je reconnaissais Cadieux aussi. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme, tu sais, au bout du compte, comment adapter, mais sans. Justement, en gardant ton style, puis en faisant que c'est aussi un livre de Xavier Cadieux, puis pas juste Xavier Cadieux qui adapte des chroniques de Charles Beauchesne et de son équipe.
Je me sens très, très, très privilégié de relire ce livre-là. Ben, tu sais, je pense pas que j'aurais été gêné de faire quoi que ce soit, mais pour un livre qui avait le potentiel d'être un produit dérivé, je suis quand même, me sens très propriétaire de ce que j'ai fait. Le fan d'Xavier Cadieux, je pense qu'il me reconnaît. Là. Je pense qu'il a pas l'impression que c'est un sell-out épouvantable. Je pense qu'on a fait quelque chose de legit.
Et les gens peuvent le découvrir. Il est en librairie depuis déjà un certain temps. D'ailleurs, je rappelle, ça s'appelle Les pires moments de l'histoire. Donc, c'est d'après les chroniques de Charles Beauchesne. C'est co-scénarisé avec François de Grandpré et Audrey Rousseau. Et c'est dessiné et mis en scène par Xavier Cadieux. C'est disponible chez Fronfroid. Xavier Cadieux, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raymond. Salut.
Toujours à la vie en BD, eh ben, on parle donc de ces finalistes 2024, les 37e prix BDIS Causa. Les récipiendaires, évidemment, seront connus pendant le Festival Québec BD. Donc, ce sera le 12 avril, 19h, moment auquel ben, on découvrira qui remportera les différents prix. Évidemment, il y a les prix que je vais lister, mais il y a d'autres prix pour lesquels il n'y a pas de finaliste annoncé. Le prix Albert Chartier, qui est décerné chaque année en hommage à un individu ou à un organisme qui a marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec. Et également, la personne lauréate et le projet lauréat de la 9e bourse Jacques Urtubise, qui vise à favoriser de nouvelles créations et des auteurs québécois émergents. Alors, ça, c'est les prix à annoncer. Mais pour l'instant, ben, il y a quand même plus un beau florilège de finalistes que je peux vous dévoiler, que vous avez peut-être vu également. Notamment sur le site de Québec BD. On l'a mis également sur lavieenbd.com, donc pas besoin de prendre des notes de ce côté. Mais dans le fond, c'est vraiment une large sélection qui a été faite par un jury composé de chroniqueurs spécialisés en bande dessinée ou en littérature, de lecteurs émérites, de libraires, et qui se sont rencontrés et qui ont passé à travers ben, essentiellement l'ensemble des albums publiés au Québec entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, et avec également des regards vers l'international. Alors, le Grand Prix Québec BD, lui, est remis au meilleur album de langue française publié au Québec par un ou des personnes auteurs canadiens. Alors, on parle de Botanica Drama, et j'y vais en ordre alphabétique d'ailleurs pour les finalistes, Botanica Drama de Tom chez Papaw. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'albums là-dedans qu'on a traités dans le détail, d'ailleurs ici à l'émission. J'en avais parlé avec lui, une superbe mise en récit, récit muet qui va de l'humour jusqu'au drame, jusqu'à des moments quand même assez intenses, en fait d'une belle intensité poétique, visuelle, horrifique à certains degrés aussi, si on va lorgner du côté de l'expressionnisme allemand. Donc vraiment, ça fait un très bel ouvrage dans la continuité de ce qu'il a offert avec 13 ou avec Khazar Rodeo, mais peut-être encore plus abouti avec Botanica Drama. Sinon, Dédé de Christian Quesnel, cette bande dessinée dédiée à André Fortin, donc qui cherche à explorer l'homme derrière l'icône et qui, à travers cette exploration de l'homme, bien, cherche à comprendre qui il était et qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Donc, on nous offre un regard un peu à l'image d'une enquête où il y a plusieurs voix qui viennent échanger autour de qui était Dédé, de différents événements, et Dédé lui-même qui intervient par le biais de correspondances, par le biais d'entrevues, par le biais d'extraits divers qui sont intégrés également à la trame de l'album développé par Christian Quesnel. On a Havana Connexion de Michel Viau et Djibril Morissette Fan, cette bande dessinée qui nous entraîne dans le Cuba d'avant et de pendant la résolution avec ce criminel québécois qui se retrouve à la tête d'un casino là-bas, qui se retrouve à fournir des armes à la Révolution, qui se retrouve comme un témoin privilégié de cette histoire qui est en train de se jouer dans ce pays. Donc, un récit qui, évidemment, a assurément fait plaisir à l'historien de Michel, l'historien qui est en l'intérieur de Michel Viau, et que Djibril Morissette Fan a vraiment réussi à bien mettre en scène avec des influences un peu empruntées aussi à la BD un peu américaine, mais avec, dans le fond, un bel esprit de mise en page qui nous entraîne véritablement dans le récit et qui en a fait pour moi une des belles surprises de l'année 2024 par ailleurs. Je pense que je n'en aurai pas de Catherine Gauthier, donc une bande dessinée sur le fait de ne pas avoir d'enfant, un récit introspectif, superbement dessiné, très réaliste, au trait de crayon, crayon de plomb. Bref, ça fait une ambiance très particulière pour ce récit très personnel. Et enfin, autre récit personnel, Passage secret trompe-l'œil d'Axel Lenoir. Donc, ce récit de biographie, de science-fiction, très structuré, mais à l'allure très spontanée, qui nous amène donc dans l'enfance d'une jeune fille en région au Québec, mais où il y a peut-être plus que ce qu'on est en train de voir. Donc, très, très beau récit, très belle surprise également pour moi. Donc, c'est les cinq finalistes pour le Grand Prix Québec BD. Il y a également le prix Réal Filion qui est décerné à un auteur, autrice canadien, canadienne, scénariste et ou dessinateur C'est plus illustré avec son premier album professionnel. Alors, trois finalistes pour cette catégorie-là. Il y a Cass et Cass, un duo mère-fille pour Monsieur No. Monsieur No, donc, qui était un chorégraphe. Et ça nous donne une bande dessinée assez réaliste, documentaire, qui métisse à la fois des témoignages, des rencontres, mais aussi des extraits reproduits d'images d'archives. Ça fait une ambiance qui est très intéressante là-dessus. Il y a Jean-Félix Chénier et Joachim Bélanger pour Résister et fleurir. Donc, ce récit qui nous entraîne au travers d'une lutte citoyenne pour un terrain vague, pour préserver la biodiversité, pour préserver un îlot de fraîcheur, pour lutter contre, dans le fond, un parc qui cherche à s'étendre et pas nécessairement au bénéfice des populations des alentours, et une réflexion, dans le fond, sur l'idée d'utopie. Et à savoir, est-ce que dans le fond, l'utopie, c'est nécessairement de vouloir quelque chose qui est au bénéfice de la santé du monde, ou est-ce que c'est pas plutôt au final aussi l'utopie d'un développement économique à tout vent qui n'est pas respectueux des individus? Bref, beaucoup de belles réflexions dans cet album très coloré de Chénier et Bélanger, dessiné à l'aquarelle. Et enfin, tu es le peintre dont il était question la semaine dernière, d'Olivier Robin et Étienne Poisson. Donc, ce western réflectif, philosophique, qui nous entraîne sur les pas d'un tueur qui doit tuer un peintre, mais qui va évidemment être curieux aussi de ce qui lui est proposé. Et donc, va partir à l'écart de la peinture aussi un peu à travers tout ça. Et dans un récit qui change de style, de palette graphique, de chapitre en chapitre également. Alors donc ça, c'est pour le prix Réal Filion. Vous avez le prix Yvette Lapointe, donc meilleur album jeunesse de langue française publié par une personne autrice canadienne. Alors, cinq finalistes de ce côté, j'y vais rapidement. Le tiroir des bas, tout seul, d'Orbi. Donc, un récit, au bout du compte, qui se pose la grande question, dans le fond, pourquoi il y a on perd toujours des bas? Pourquoi tout le monde passe sa vie à perdre les bas? Et qu'est-ce qui arrive avec les bas qu'on a perdus? Ils s'en vont où, ces bas-là? Ils disparaissent où, essentiellement? Donc, c'est un très, très rigolo album qui répond à cette question-là. Et l'autrice a été posée des questions, d'ailleurs, à plein de parents et plein de gens pour avoir les hypothèses. Et donc, ça représente bien, je pense, l'esprit de l'enfance aussi, qui mène, et ces deux enfants qui mènent, dans le fond, cette enquête-là. Donc, vraiment un très, très beau récit. Vous avez Sire de Doom, tome 1, Le Code du Chevalier Roderick, de Mathieu Benoît et Jean-François La Liberté. Donc, premier album d'une série qui prend un peu à contre-pied ce qu'on aurait pu penser, où on se retrouve avec un ogre, dans le fond, qui pourrait être un vilain, mais qui finalement est quelqu'un qui veut devenir un chevalier très honorable, qui a été lui-même formé par un honorable chevalier et qui amorce essentiellement sa quête. Une amorce de série. Je vais être très curieux de voir d'ailleurs comment ça va évoluer avec le tome 2. Vous avez également Jaja la nuit de Valérie Boivin. Donc, cette histoire des jeunesses où deux enfants se retrouvent à parcourir des aventures dans l'appartement, des aventures imaginaires. Très, très belle invitation à l'imaginaire de l'enfance dans le style de Valérie Boivin, mais de son côté, illustration jeunesse, là, comparativement à son incursion en bande dessinée adulte. Vous avez le tome 5 de L'univers est un ninja, le livre blanc d'Alex A. Alex A qui, avec cette série-là, s'est quand même donné un beau défi, celui de placer un personnage muet au centre de son univers, et ça fonctionne. Vraiment une série qui est bien maîtrisée. Le pénultième album, le tome 5, le livre blanc, qui nous prépare un peu vers la confrontation, vers la fin de tout ça, une longue scène d'action bien maîtrisée, je trouve. Et enfin, J'aime pas ta robe de Daniel Chaperon et Samuel Quentin. Essentiellement un récit de deux enfants qui énumèrent tout ce qu'ils n'aiment pas de l'autre au final et qui en viennent finalement à s'apprécier et à transformer ce jeu-là en début d'une amitié. On passe au prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par une personne auteur canadienne, soit dessinateur ou scénariste. Vous avez trois finalistes, Les Fusibles de Cyril Donneau et Joseph Safedine. Ça, c'est Cyril Donneau, donc scénariste. Donc, qui nous amène dans un Iran d'après-guerre, en fait, dont je me mêle peut-être de pays, j'en suis désolé, mais qui nous entraîne vraiment dans une réflexion et un regard, je trouve, sur les moments marquants de notre jeunesse et comment ces moments-là peuvent essentiellement tisser ou se placer au cœur de ce qu'on va devenir par la suite. Ben dans ce cas-ci, on parle quand même d'un moment qui est quand même assez traumatisant également, dont je ne dévoilerai pas la nature. Et à travers tout ça, ben, un récit en s'ancrant sur des dialogues entre générations, réflexion sur la guerre, réflexion sur l'origine, sur le pays et le reste. Vraiment bien fait côté dialogue, mais bien mis en scène également de façon assez naturaliste par Cyril Doineau. On a Zaroff, le tome 2, La vengeance de Zaroff, de François Miville Deschênes et Sylvain Runberg. Donc ici, on parle de François Miville Deschênes. J'avais parlé du tome 1. Le tome 2 est aussi bon que le tome 1, essentiellement. Je n'avais pas porté un regard particulier sur celui-là. Essentiellement, on retrouve Zaroff et on le retrouve dans une autre chasse, mais qu'il mènera du côté de la Russie en pleine guerre mondiale. Donc ça change un peu d'une île déserte tropicale. Ça change la dynamique du récit également, ça nous amène à mieux comprendre et connaître qui est Zaroff et pourquoi fait-il ce qu'il fait. Mais au-delà de ça, on parle d'une série qui alterne action et moments de repos, qui est bien maîtrisée, qui, comme à l'habitude pour Miville Deschênes, est absolument superbement dessinée. Et dernier titre, L'agent double de François Lapierre et Voreau. On en avait parlé en entrevue la saison dernière. Donc, ce récit qui offre, dans le fond, un beau concept graphique, visuel, où on se retrouve avec donc un récit qui est mené sur deux pages. Donc, une page où on a techniquement la réalité et l'autre page, c'est la réalité telle que vue par le personnage principal du récit qui, lui, est atteint de troubles psychiatrique, dans le fond, donc de différents enjeux. On illustre de façon immersive ces enjeux-là. C'est très, très bien fait, très, très bien maîtrisé comme récit, comme processus. Le processus nourrit également le récit, nourrit notre relation avec le récit, ce qui fait qu'on dépasse aussi l'idée d'un gadget. Dans le fond, ce n'est pas qu'un gadget, ce processus-là. On va bien au-delà. On passe aux deux catégories coup de cœur en terminant cette énumération prolongée. Alors, le prix Maurice Petit-Didier, ça, c'est le coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger par des auteurs non canadiens. Alors, vous avez La Petite Lumière de Grégory Panachian et Anthony Moresco. Superbe récit dessiné, en fait, il me semble à l'aquarelle, où on retrouve, dans le fond, un vieil homme qui vit seul dans une demeure et qui, essentiellement, se questionne face à une petite lumière qu'il voit le soir de sa fenêtre. Finalement, il décide d'aller investiguer et il se rend compte que c'est un enfant qui vit seul dans la colline en face de la sienne. Alors, pourquoi cet enfant est-il seul? Que se passe-t-il? Qui est-il? D'où vient-il? Bref, on est vraiment un peu dans ce type d'analyse-là de ce côté. Deuxième titre, on a Bleu à la lumière du jour de Borja González. Alors, un récit très expressif, très visuel, très poétique, en fait. Donc, c'est vraiment, je veux dire, il y a quelque chose dans le dessin qui ressort de façon fort particulière. C'est l'histoire, en fait, d'hommes qui sont partis à la chasse. C'est l'histoire d'un oiseau bleu qui se pose près d'une femme, l'oiseau qui connaît le nom de la femme. Et ensuite, ben, de là, on démarre un peu ce récit. Dans le fond, j'en dis pas trop parce qu'il y a quand même quelque chose de très expérientiel avec cette proposition de Gonzalez. Dernier titre, pour quelques degrés de plus d'Ulysse Gris, je parlais tout à l'heure de procédé de mise en page. Qui dépasse le gadget, dans le cas de l'agent double, c'est aussi le cas pour quelques degrés de plus, dans la mesure où on a trois scénarios. Donc, une apocalypse, on ajoute 2, 4 et 6 degrés, si je ne me trompe pas, à la température de la Terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe et comment les récits se distinguent? Donc, on démarre avec ça, mais en cours de route, ben, on se rend compte que les récits en viennent également à se métissés entre eux et ça nous amène encore un peu plus loin, alors qu'on pensait pouvoir lire seulement une colonne, mais finalement on se retrouve à lire toutes les colonnes un peu simultanément. C'est une expérience de lecture très particulière et encore ici, mais enfin une exploration visuelle qui dépasse clairement la notion de gadget. Et on termine avec le prix Roberto Wilson. Ça, c'est le coup de cœur du jury pour un album publié en français et issu d'une traduction. On a trois titres finalistes. Environnement toxique de Kate Beacon. Donc, un récit, ma foi, fort intéressant. qui nous entraîne dans l'Ouest canadien, dans le fond. Donc, c'est un récit à saveur un peu autobiographique où Kate Beacon donc, quitte sa Nouvelle-Écosse natale pour aller travailler à l'autre bout du Canada, donc dans l'Ouest, là où on extrait le pétrole des sables bitumineux. Donc, elle va être souvent seule à elle-même. Elle va naviguer de site en site et elle va être marquée, évidemment, par le harcèlement quotidien et le sexisme de ses nombreux collègues masculins. Alors, on va s'interroger au bout du compte sur la violence de cet univers professionnel-là dans un récit documentaire qui est très bien maîtrisé et qui nous amène avec une problématique qui est, et une thématique qui est évidemment fortement d'actualité. On a Contrition de Keiko et Carlos Portela qui nous entraîne. Une enquête. Un film noir, on pourrait dire, en bande dessinée. Une disparition d'un prédateur sexuel qui est dans la ville de Contrition, qui est en apparence mort, mais finalement, on se rend compte que le corps décédé n'était pas le sien. Alors, où est-il parti? Pourquoi est-il parti? Et surtout, avec qui est-il parti? Alors, on va suivre un peu le récit d'un homme qui accompagne ce prédateur-là dans cette fuite et d'une femme qui cherche à retrouver ce prédateur. Ça crée un très, très beau récit dessiné de façon réaliste en noir et blanc. Très belle lecture de mon côté de ce Contrition. Et enfin, Mourir pour la cause de Chris Oliveros, dont on avait parlé ici à l'émission, cette bande dessinée documentaire qui s'intéresse à la première partie, l'émergence du Front de libération du Québec et de ses premières itérations au bout du compte, dans un récit qui est quand même très, très, très bien documenté, qui est illustré de façon claire, précise, bien structurée. Ça avait été une très, très belle lecture également de ce côté. Alors voilà un peu pour la liste des albums finalistes. Je rappelle dans le fond que tout ça, ben, il y aura donc des albums gagnants qui seront reconnus. Donc ça se passera le 12 avril au Musée de la Civilisation, donc cette remise de prix à laquelle j'assisterai assurément. Et ben, j'en profite également pour mentionner que Québec BD va dévoiler sous peu là, sa programmation 2024. Pour l'événement qui, lui, aura lieu du 10 au 14 avril. Et comme à l'habitude, ben, de notre côté, on y consacrera assurément deux émissions là, pour vraiment décortiquer la programmation de cet événement incontournable du 9e art à Québec et plus largement également. Alors voilà donc, et je rappelle que si vous voulez trouver les finalistes en détail, ben, c'est sur québecbd.com ou sinon au lavieenbd.com. Alors voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, ce sera une émission entièrement consacrée à des cartes blanches et à de l'exploration en compagnie de nos collaborateurs Stéphane Gravel et Marco Duchesne. D'ici là, eh ben, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.